I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Avant les élections du 9 juin, La Loupe vous propose de comprendre comment les institutions européennes influencent notre quotidien dans une série de 5 épisodes. Est-ce toujours la faute de l'Europe, comme on l'entend beaucoup chez nos politiques ?
Une Europe unie, une Europe forte, une Europe puissante et généreuse.
L'Europe, l'Union européenne.
L'Europe, la faute à Bruxelles.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Tout le monde parle de l'Europe !
Je pense qu'il faut sortir l'agriculture française des accords de libre-échange.
Une méthode d'élevage qu'il estime aujourd'hui menacée par le projet d'accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud.
Ça permet de laisser rentrer de la viande bovine ou de la volaille qui ne respecte pas du tout les règles que nous on a en France ou en Europe.
L'Union européenne, elle ouvre les portes et les fenêtres en disant « Mais venez, produisez dans des conditions sociales et environnementales et venez faire de la concurrence déloyale à nos producteurs. » Donc nos agriculteurs et nos producteurs mettent la clé sous la porte.
Il y a quelques jours, j'ai déjeuné dans une brasserie située à quelques pas de la rédaction de l'Express. Au menu, de grands classiques français, œufs mayo, saucisses de Toulouse, gratin dauphinois et bien sûr un tartare de bœuf au couteau. Dans la salle du restaurant, un écriteau précisait le pays d'origine de la viande et surprise, en dessous de France était noté Canada. Forcément, j'ai pensé aux récentes manifestations des agriculteurs très remontées contre l'Union européenne et ses accords de libre-échange. Mais est-ce vraiment la faute de l'Europe si de la viande canadienne atterrit dans nos assiettes ? La réponse dans cet épisode. Pour ce premier épisode, je suis allée chercher l'éclairage de Béatrice Mathieu, grand reporter, spécialiste de l'économie à l'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Charlotte.
D'abord, pour bien se rendre compte de ce que ça représente, quelle quantité de viande, notamment de bœuf, la France importe-t-elle ?
Alors exactement 363 300 tonnes équivalent carcasse. Hein. C'est une définition usuelle hein, quand on mesure les tonnes de viande. En réalité, c'est un petit peu moins quand on prend la tonne que l'on connaît. Mais bon, c'est beaucoup. Et en fait, la balance commerciale, elle est déficitaire parce que au cours des dernières années, en fait, on a importé un peu plus de viande que ce que l'on a exporté. Alors, d'où viennent ces importations ? Bah, une grande partie, la très 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 grande majorité, viennent d'Union européenne et notamment pour près d'un quart des Pays-Bas. Puis viennent l'Irlande, l'Allemagne et la Pologne. En fait, les viandes qui viennent hors Union européenne, bah, y en a très peu. La viande brésilienne, dont on a beaucoup parlé, beaucoup fantasmé ces dernières semaines, ou encore celle qui est en provenance d'Argentine, ben, c'est très très peu. Hein. Quand on regarde la viande brésilienne, c'est à peine un peu plus de 1% de part de marché. Alors évidemment, ça progresse beaucoup, de 25%, mais quand vous partez de quasiment zéro, vous avez tout de suite des chiffres de croissance qui sont importants. Mmh. Mais en réalité, dans les masses, ça pèse très peu. Donc c'est un peu fallacieux de prendre les chiffres de taux de croissance.
Et pourquoi la France a-t-elle besoin d'importer cette viande, que ce soit depuis ou hors de l'Union européenne ?
Ben, parce que la production française de viande, elle, diminue depuis 4 années consécutives. En 2024, elle devrait encore baisser. Et grosso modo, sur ces dernières années, on a la production de viande qui diminue de près de 5% par an. C'est ce qu'on appelle un peu, dans le jargon, la décapitalisation. C'est beaucoup d'éleveurs qui, face à l'augmentation de leurs coûts, de l'électricité, de la nourriture, les normes, eh bien, ils décident finalement, quand ils amènent leurs bêtes à l'abattoir, ben, de ne pas renouveler le cheptel. Ils changent souvent de métier. Ils faisaient de d'élevage, ils vont faire des céréales ou du soja. Et donc, la production baisse. La consommation, elle, stagne. Elle n'a pas baissé à la hauteur de la production. Et le résultat, c'est qu'on doit importer de plus en plus. Et ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec la faute de l'Europe. C'est notre modèle de production.
Pour comprendre, on va maintenant regarder un texte en particulier, le CETA. Cet accord avec le Canada, il a été approuvé au niveau européen en 2017. Il est donc déjà entré en vigueur. Mais chez nous, il n'a pas passé l'étape de validation au Parlement. Il a été massivement rejeté par le Sénat fin mars. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce texte, Béatrice ?
Alors, il faut noter que le CETA ne porte pas que sur l'agroalimentaire. Il y a plein de produits industriels, de l'automobile, de la chimie. Et contrairement à ce qui a été dit, quand on a craint en fait un boom des importations de viande, ça ne s'est pas vraiment passé, ni sur le bœuf, ni sur le poulet, ni en fait sur aucune viande. Parce que, en plus, on avait mis des quotas d'importation. Et ces quotas d'importation n'ont même pas été utilisés par le Canada. Et en réalité, quand on regarde un petit peu le track record sur les résultats sur les exportations françaises vers le Canada, le CETA était plutôt très profitable pour l'agriculture française sur les laitages, sur les fromages, sur les céréales et surtout sur le vin.
Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que la viande qui arrive dans nos assiettes, du Canada ou du Brésil par exemple, elle n'a pas les mêmes contraintes de production que la viande française. Est-ce que c'est vrai ?
Alors il y a du vrai et du faux. Alors, on va commencer par le faux. Le faux, c'est, ah là là, on va manger de la viande qui a été produite avec des antibiotiques, avec des médicaments que les éleveurs français n'utilisent pas. Ça, c'est faux. Parce que la viande qui est autorisée à rentrer sur le marché européen doit correspondre aux normes sanitaires qui sont imposées par l'Union européenne. Mmh. Et ça, qu'elles viennent du Canada ou du Brésil, c'est la même chose. C'est vrai qu'au Canada, les éleveurs utilisent, en fait, des antibiotiques qui ne sont pas autorisés en Europe. Et donc, ils ont des très, très gros élevages. Et pour eux, changer leur mode de production, simplement pour venir en Europe, alors qu'ils n'ont aucun problème pour écouler leur viande dans le reste du monde, et notamment en Asie, ça leur coûtait trop cher. Et donc, ils n'ont même pas voulu le faire. Et donc, on n'a pas eu d'afflux de viande canadienne. Et on pourrait dire la même chose concernant les fruits et légumes qui viennent, par exemple, de Nouvelle-Zélande. Alors là où il y a un problème, c'est quand même effectivement sur les contrôles. Il peut y avoir des fraudes, comme il y a des fraudes en fait sur tous les marchés. Parce que le certificat, on le demande au départ du pays et non pas à l'arrivée. Et donc, c'est vrai qu'au départ du pays, tu peux avoir, comme sur tous les marchés, des fraudeurs et des faux certificats.
Autre inquiétude des agriculteurs français, Béatrice, les normes sociales.
Oui, alors là, c'est vrai, les coûts de production sont beaucoup plus faibles, notamment en Amérique latine, ils sont même très bas au Brésil, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les 35 heures et leur salaire minimum est bien plus faible qu'en Europe, et puis ils n'ont pas les mêmes normes sociales. Et là, encore une fois, on peut parler de concurrence déloyale. Mais tu vois, ça n'est pas la faute de l'Europe.
Merci beaucoup, Béatrice. On comprend beaucoup mieux les enjeux agricoles autour des traités de libre-échange européen.
À bientôt.
Chers auditeurs, je vous propose de prendre maintenant la direction de Bruxelles. C'est dans les couloirs de la Commission européenne que se jouent ces textes et on va tout vous expliquer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nous allons d'ailleurs retrouver Isabelle Horry, la correspondante de l'Express à Bruxelles, dans chacun de nos épisodes dédiés aux élections européennes. Bonjour Isabelle.
Bonjour Charlotte.
Isabelle, en quoi ces traités de libre-échange, ils sont utiles à l'Union européenne ?
Ils permettent de mieux vendre nos produits à l'étranger en diminuant les taxes et les contrôles douaniers et en supprimant les réglementations nationales qui sont susceptibles de gêner l'importation entre deux États ou deux zones géographiques. Par exemple, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, ratifié en 2023, qui a beaucoup fait parler de lui, dans un sens, il prévoit d'éliminer totalement les droits de douane pour les exportations européennes à destination de la Nouvelle-Zélande. Et en contrepartie, l'Union européenne exemptera de droits de douane 98,5% des importations néo-zélandaises actuelles.
Et pourquoi ces négociations, elles ne sont pas faites directement par les pays membres? Par exemple, la France seule en discussion avec la Nouvelle-Zélande, le Canada ou le Brésil?
En fait, les pays membres de l'Union européenne ont fait le choix de confier à la Commission européenne la compétence exclusive de la négociation commerciale. Pourquoi? Parce qu'on a un marché unique et sans frontières. Alors, on contrôle à l'arrivée dans le marché unique. Par exemple, on contrôle quand un produit vient du reste du monde et qu'il arrive en France. Puis, on ne va pas recontrôler ensuite entre la France et la Belgique, puis entre la Belgique et l'Allemagne ou entre la France et l'Italie si jamais ce produit doit aller ailleurs dans l'Union européenne. Et comme les normes sont donc communes à tout ce marché, c'est mieux qu'un seul interlocuteur négocie pour tous. Et puis, par ailleurs, un marché de 450 millions de consommateurs, eh ben, ça a beaucoup plus de pouvoir. On a plus de pouvoir en représentant tous ces gens que seuls face à d'autres pays. Et ça, par exemple, les Anglais l'ont découvert depuis le Brexit. Comme ils sont plus petits maintenant, ben, ils ont moins de poids. On peut leur imposer plus de conditions. Avec l'Union européenne, on est donc en théorie davantage en position de force pour imposer nos conditions à ceux qui sont en face.
J'imagine qu'il y a aussi des inconvénients à négocier pour autant de pays.
Ouais, là où c'est compliqué, c'est que quand on négocie pour un si grand ensemble, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Il faut donner des choses à l'autre en échange. Il doit aussi avoir un intérêt à négocier avec vous. L'objectif, quand même, c'est d'avoir le plus de gagnants possible et le moins de perdants. Or, en France, on entend souvent beaucoup plus les perdants. Par exemple, si on veut vendre du vin et du fromage aux Canadiens, eh bien, il faut qu'ils aient des choses à nous vendre en échange. C'est un peu comme quand on construit une ligne de train, en fait. On va déplacer quelques personnes pour permettre au plus grand nombre de se déplacer plus rapidement.
Et ces accords négociés par la Commission pour les pays de l'Union européenne, il y en a beaucoup?
Oui, il y a une trentaine d'accords avec un total de 74 pays. C'est le plus grand réseau d'accords commerciaux dans le monde. La valeur du commerce de l'UE par le biais d'accords de libre-échange avec des partenaires mondiaux a dépassé 2 milliards d'euros pour la première fois en 2022. Alors c'est très important pour l'Europe en termes de revenus, mais on peut se dire en effet que c'est peut-être un peu daté quand même d'exporter autant aujourd'hui, qu'il faudrait plus consommer maison, enfin en l'occurrence européen. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher en tant que consommateur? Ça, c'est un autre sujet.
Dans les coulisses des traités de libre-échange à Bruxelles, avec Isabelle Horry. Merci Isabelle pour tes explications.
À la semaine prochaine.
Et dans ce prochain épisode, il sera question de tech. Comment l'Europe peut-elle rivaliser avec les géants chinois et américains? Alors pour ne pas rater cette série consacrée aux élections européennes, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Et toute l'actualité de l'Europe et l'expertise de nos journalistes sont à lire sur l'express.fr. Cet épisode a été monté par Théo Cyr et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.